RFI.
Culture Ville, Pascal Paradis.
Mesdames et messieurs, un peu de rythme et on garde la cadence avec du jazz d'abord et un incontournable, Baïa Alouache, le pianiste Michel Petrucciani.
Il nous a quitté il y a 10 ans, jour pour jour, et auquel le milieu du jazz rend hommage avec une série de concerts et la sortie d'une intégrale.
José Marinho, si je vous dis Ayo.
Oh oui, yeah. Ayo, le phénomène pop folk exotique, est de retour à Paris pour 3 concerts à guichet fermé à l'Olympia.
Mais d'abord, quelques chiffres, Sophie Écoué, ceux de la rentrée littéraire de ce début d'année.
Un chiffre à retenir, 558 nouveaux romans en ce mois de janvier. Quels sont les favoris qui lirent? Dantec, Rambaud, Austère, Gourdimer, Co. Je dis bien que le livre est tiré et il faut le lire.
On a coutume en fait de dire, et je pense que c'est assez juste, que le lectorat de la rentrée de janvier est peut-être plus littéraire que celui de la rentrée de septembre. En effet, ça a été une rentrée très, très diversifiée, très riche, avec beaucoup d'ouvrages effectivement traduits, et avec vraiment des auteurs à la fois confirmés, des nouveaux talents, plein de textes vraiment de nature très très différente, d'horizons très différents.
558 livres, je mets au défi quiconque de les lire tous, mais ça s'appelle la rentrée de janvier, Sophie, et comme le confirme Laurence Deschamps de la FNAC, la tonalité n'est pas exactement la même que celle de septembre. Pour quelle raison? C'est parce que les prix littéraires sont passés?
Oui, c'est vrai qu'on l'avait dit ici il y a quelques temps, en automne dernier, c'est vrai qu'on publie beaucoup les romans pour la course littéraire, il y a tellement de prix. Il y a aussi tous ces premiers romans qui viennent comme ça à la rentrée de l'automne. Il y a aussi ces écrivains qui n'aiment pas le battage médiatique, qui viennent, qui font leur rentrée, j'allais dire, prestigieuse de janvier. C'est devenu en fait la rentrée des noms prestigieux et les éditeurs misent énormément sur ces noms prestigieux. On dit d'ailleurs qu'en France, que la rentrée de janvier, c'est le 3e événement littéraire.
On dit beaucoup de choses en France.
Oui, beaucoup de choses. Des choses qui se disent en douce aussi.
Mais qu'est-ce qu'on trouve vraiment donc, dans cette rentrée 2009 que des confirmés? Non, pas que des premiers romans non plus.
Il n'y a pas beaucoup de premiers romans. On voit la source Livre Hebdo, il y a peu de premiers romans. Il n'y a que des noms confirmés. Hein. Ce qui est bien qu'on peut relever, c'est déjà que c'est une rentrée sans duel ni duo. Hein. On ne retrouve pas ce qu'on a vu la rentrée de septembre, parce que toujours les mêmes à l'affiche, Millet, Angot, et même les duos.
DHL Houellebecq, mais qui a été un bide, m'a-t-on dit, mais
oui,
j'ai pas de chiffres.
Absolument, oui. On n'a pas de chiffres. D'ailleurs, on ne donne pas de chiffres pour ces choses comme ça.
Oui, quand ça marche pas.
C'est vrai que cette fois-ci, on trouve beaucoup d'autobiographies. On en a trouvé déjà en septembre, beaucoup de romans, de biographies romancées, d'autobiographies. On est dans les plaies du monde toujours. Et c'est vrai que les vices de notre temps reviennent un petit peu à travers le pouvoir ou aussi à travers ces thèmes, les guerres. On disait tout à l'heure que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est vrai que c'est un bon cru, une mauvaise nouvelle pour vous, parce que je vois bien dans ma boule que vous allez lire et encore lire, parce qu'il y a des auteurs que vous aimez beaucoup qui reviennent. À vue de nez comme ça, on peut dire que c'est une rentrée très masculine. Hein. Vous vous souvenez qu'à cette rentrée, vous avez reçu beaucoup d'auteurs femmes, Millet, Cussé, Angot, Nothomb. Et là, quand on prend une liste comme ça de 20 romans en littérature française, eh ben, il n'y a quasiment pas de femmes. Hein. Une seule femme et dans cette liste, c'est Chloé Delhomme, qui fait paraître au Seuil dans la collection Fixier et compagnie. Le roman dont on parle déjà beaucoup, c'est Dans sa maison, dans ma maison sous terre.
Alors pour confirmer tout cela, c'est vrai que notre prochain invité sera Stefano De Guy, c'est un homme. Mabankou est invité, c'est un homme. Makine est invité, c'est un homme. On recevra Philippe Solaire, c'est un homme. On va chercher des femmes.
On va en trouver, on va en trouver.
Est-ce qu'on en trouve davantage chez les étrangers?
Oui, il y a
des
aussi...
étrangères, donc.
Non, pas beaucoup. Là, sur la liste des étrangers, en tout cas, des plus connus, des plus prestigieux, la liste, c'est Nadine Gordumer, qui vient, oui, voilà, puisque, quand même, il faut le dire, Pascal, c'est que janvier, c'est quand même le territoire des auteurs étrangers. Et cette année, les romans anglo-saxons dominent la rentrée, non seulement en nombre, sur les 558, il y a à peu près 200 romans, donc il y a une domination en nombre, mais en même temps en valeur sûre. On On parlait tout à l'heure de Paul Auster, Jonathan Coe revient, Nadine Gordimer, Juno Diaz, qui est le prix Pulitzer 2008, Joyce Carol Oates aussi. Et à côté de cette déferlante venue de Londres, de New York, d'Afrique du Sud, des Caraïbes, eh bien, on a la littérature japonaise qui monte, la scandinave également. Beaucoup de traductions en littérature allemande, 6 romans en littérature portugaise, 13 titres en littérature espagnole. Je donne des chiffres comme ça pour donner un petit peu la note, le baromètre.
Oui, mais c'est important parce que je crois qu'on ne rappellera jamais assez que finalement la France est certainement le pays où l'on traduit le plus. Je fais du cocorico en disant ça, je crois
pas
que non.
Pas du tout, hein. On dit que la France aime les étrangers. En tout cas en littérature.
En littérature,
oui. C'est un gros titre d'ailleurs hein, qui a été signé il y a quelques temps dans une grande presse quotidienne. Et pour revenir à la littérature, aux littératures étrangères, cette année, en cette rentrée de janvier, il y a une petite dizaine de titres aussi en littérature arabe avec deux livres très entendus des deux égyptiens. Il y a Ibrahim Sonala qui revient avec Le Petit Voyeur, et Feu Zami, un recueil de 10 nouvelles qui brosse un petit peu les angoisses comme ça de la société égyptienne en proie à une violente crise morale, et c'est signé Alaa El Swani, vous le connaissez bien, c'est l'auteur du best-seller L'Immeuble Yacoubian. Et cette année, le Salon du Livre sera consacré à un pays qui est le Mexique. Donc
ça, c'est le quatrième événement littéraire.
C'est le quatrième événement littéraire, c'est que là, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs mexicains, en tout cas de littérature hispanique, qui sont à l'affiche de cette rentrée. Donc on peut souligner Guillermo Fadanelli qui revient, et surtout le grand retour de Juan Manuel de Prada qui revient au seuil avec Le Septième Voile, 3 ans après son immense succès La Vie Invisible.
Que de choses à lire, mais que de plaisir.
C'était ce qu'on appelle un cacou du midi, c'est-à-dire quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et beaucoup d'ironie, et sur lui-même et sur les autres. Il avait toujours des blagues à raconter. Je crois qu'il avait une façon très ludique d'envisager la vie. Et aussi, il se savait condamné à ne pas vivre longtemps. Donc tout ça, ça lui donnait une sorte d'énergie comme ça, très immédiate.
Michel Petrucciani est mort il y a 10 ans, il n'en avait que 37, mais comme l'on sait, la valeur n'attend pas le nombre des années, et il a laissé Baïa Alouache derrière lui une œuvre assez considérable.
Une trentaine d'albums en 20 ans, avec un premier disque enregistré à l'âge de 16 ans, grâce au batteur percussionniste Aldo Romano qu'on vient juste d'entendre, et qui à l'époque tombe sous le charme du plus petit des grands pianistes de jazz. On est en 78 à cette époque. Donc Petrucciani était un musicien vraiment précoce, il est né dans une famille de guitaristes, mais lui, il a choisi le piano pour laisser libre cours à sa personnalité de filou, de cacou, et à son imaginaire espiègle. C'était un fêtard invétéré qui vivait à 200 à l'heure, et on retrouve cette énergie dans sa fringale de collaboration avec les plus grands instrumentistes jazz. Alors quelques noms peut-être: Eddie Lewis, l'organiste, John Scofield, Charles Lloyd et Wayne Shorter, qui sont deux grands saxophonistes. Et on retrouve aussi cette frénésie ordonnée dans ses composition, et c'est solo ou c'est soli, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez?
On dit solo, je crois, non?
Solo. Et c'est d'ailleurs ce qui a marqué le pianiste jazz Frank Avitabile quand il a écouté pour la première fois celui qui est devenu ensuite son maître.
Déjà son phrasé, son son de piano, il a un délié assez particulier, il a une technique assez fulgurante aussi. Il a ce truc qui fait qu'on sait rarement ce qu'il va jouer à l'avance. Il y a toujours beaucoup d'imprévus dans son jeu. Et puis il y a aussi le fait qu'il raconte une histoire en fait. Quand il fait un solo, il fait pas seulement des grilles les unes après les autres. Moi c'est ça qui me touche le plus, parce que du coup quand on écoute ses solos, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Je me souviens d'ailleurs, c'est assez drôle, en concert, quand il passait au festival de Brignoles, dans les concerts de jazz, il y a toujours des gens qui vont l'applaudir à la fin des solos, et il y a des gens du public qui se faisaient engueuler pour pas applaudir trop tôt, pour pas perdre ne serait-ce que 2 ou 3 secondes de ces solos.
Il y a des gens qui savent écrire, moi je sais pas bien écrire avec les mots, donc j'essaye de dire à travers ma musique des choses que je voudrais dire avec les mots, et c'est une lettre d'amour, ça s'appelle Love Letter.
Thank you.
Michel Petrucciani. Alors il y a le style musical qui colle pile poil, je trouve, avec le style d'interprétation. C'est quand même assez speed, hein.
Speed, tonique, survitaminé, mais en tout cas avec une vraie rigueur d'exécution, un tempo impeccable. Et c'est l'une des particularités de Petrucciani, un sens du rythme quasi inné à toute épreuve, et notamment l'épreuve physique, puisqu'on sait que Michel Petrucciani était atteint d'une maladie osseuse très invalidante. Et puis l'autre spécificité du French Wonder Boy, comme on l'appelle, c'était sa faconde musicale qui lui a permis d'initier un public pas forcément adepte du jazz à cette musique dont il disait qu'elle était pour lui presque un dieu avec lequel il ne fallait pas tricher. Et c'est en quelque sorte donc finalement un vulgarisateur du jazz, mais dans le sens noble du terme. Il a un jeu limpide qui ne s'éloigne jamais des codes du jazz bebop des années 40-50, et c'est ce qui plaît, même si son vieil ami Aldo Romano, franc-tireur du free jazz, semble le regretter un peu.
Il était très classique dans sa façon d'envisager le jazz, hein. C'était pas du tout quelqu'un qui jouait free, quoique je l'ai entraîné à certains moments à jouer d'une autre manière, un peu vers sans tempo, sans harmonie, mais il n'aimait pas ça. Je crois qu'il était traditionnel quand même dans sa manière d'envisager le jazz.
Est-ce que vous pensez que c'est dû à sa formation classique ?
Oui, c'était sa formation, la formation qui lui venait de son père surtout, qui lui est un guitariste traditionnel, jazz, entre Wes Montgomery, Jimmy René, etc., tous les grands guitaristes de jazz.
Michel Petrucciani au piano, et quand on dit classique, vraiment classique. Hein.
Oui, il est accompagné de Stéphane Grappelli, qu'on n'a pas entendu, mais qui est donc...
Ah oui, non, j'ai pas entendu le violon.
Très grand violoniste. Une tradition de jazz ludique, très travaillée, sans jamais être théorisée, surtout là quand ils interprètent I Got Rhythm des frères Gershwin, deux autres incontournables dès qu'il s'agit de standards du jazz.
L'intégrale Petrucciani sort donc chez Dreyfus Musique, et les concerts d'hommage dont vous nous parliez, Baïa, avec Romano et Avitabile notamment, se tiendront du 15 au 17 janvier au Sunside dans le 1er arrondissement de Paris, c'est près des Halles.
Who knows what it will be? I don't, so why should I worry? If you think you know more than me, keep it for yourself, 'cause I don't wanna know.
Extrait de Gravity at Last, le nouvel album de Ayo. Alors ce n'est que le second album de cette chanteuse, mais c'est déjà un phénomène. Pourquoi José Marinho?
A-Y-O, Ayo, allemande, fille de père nigérian et de mère tzigane romaine, Ayo. C'est son nom de scène.
C'est vrai que c'est facile à retenir finalement.
Et qui veut dire en fait la joie. Voilà, et apparemment ça vient de Yoruba, c'est une langue du Nigeria. C'est ça, Sophie?
Je dois répondre.
Bah, vous pouvez répondre.
Alors j'ai fait une petite fiche justement pour vous en disant que c'était la joie.
Mais voilà. Parce que vous croyez qu'il n'était pas informé.
Je me suis un peu renseigné.
Non, mais tout de même.
Madame Allégresse a de quoi être heureuse aujourd'hui à l'âge de 28 ans. Joyful en fait s'est vendu à 450 000 exemplaires.
Ça c'est le premier album.
Premier album. Deux ans après donc l'incroyable flambée de son coup d'essai, le charme opère toujours avec Gravity Atlas, donc son nouvel album, 100 000 exemplaires écoulés depuis sa sortie en octobre dernier, c'est fantastique. Donc, la France
aime les artistes étrangers.
C'est la vérité. Ça se confirme.
Ça se confirme. Parce que c'est la France qui lui a déroulé le tapis rouge et en 3 ans à peine, Ayo est devenu un phénomène planétaire. Pourquoi ? Eh ben, on a quand même essayé de comprendre, d'abord peut-être par sa silhouette filiforme et délicate, sa voix douce et limpide, et sa beauté, elle est bellissima. Il faut pas, c'est incroyable. C'est d'une beauté phénoménal.
On se calme.
Donc voilà. Donc,
on se calme.
Ayo séduit et berce en fait un public demandeur de balades douces et cosy par ces temps de crise économique. C'est très important. Mais, mais sous ces airs un peu poupins, transparaît quand même une maturité et un don pour l'écriture et la composition, avec notamment la complicité du producteur, le grand producteur de Norah Jones, dont le nom m'échappe maintenant. Ayo signe ses 2 albums de A à Z avec des textes engagés sur le monde qui va mal, sur la famille, enrobés en fait d'un mélange savant entre jazz, reggae, soul, folk. Ayo, l'africaine élégante, c'est ça qui est important, c'est fédérer en fait les générations du pétard chic et des bobos en devenir avec le talent d'une jeune grâce ensorcelante.
C'était reggae, soul, folk, c'est assez blues quand même.
Oui, c'est en fait le seul morceau qui sort du lot des 13 chansons de Gravity Atlas. Des chansons finalement qui s'éteignent à force de se rassembler. Il faut dire que ce disque a été enregistré en 5 jours. C'est vraiment un record, donc le recul n'y est pas. Ayo s'est en fait installé dans le paysage bohème du groove feutré et de la chanson chic et propre. Elle est douée, elle est de bonne compagnie, mais l'heure n'est pas vraiment au coup de foudre en ce moment. Ayo n'est pas vraiment... Oh yeah.
Merci José. Ayo en concert à l'Olympia pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui, mais c'est à guichet fermé, génération pétard chic et bobo en devenir, comme vous le dites. Donc elle part en tournée en France, elle revient en février à l'Olympia. Quant à son disque Gravity at Last, il est édité chez Polydor. Merci à tous. Culture Vive avec Florence Ponce, réalisation Nicolas Piga, Laure Tamperville à la technique. Et on parlait de littérature, et bien demain nous serons en compagnie du romancier Stéphane Audeguy pour son nouveau roman intitulé Nous autres, un voyage initiatique au Kenya. Bien à vous, à demain.